France Musique.
Aujourd'hui en disque de légende, un monument, le Requiem de Mozart par Carl Böhm, 1971. Conte Futatis du Requiem de Mozart, enregistré en 1971 par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, le chœur de l'Opéra de Vienne. À la baguette, il y avait ici Carl Böhm, immense mozartien, comme on sait, qui a beaucoup dirigé les symphonies des opéras quasiment tout au long de sa vie, en donnant toujours à ces œuvres-là, à symphonie et opéra, enfin à ces genres-là, une vitalité, une vivacité aussi. Et bien là, à la fin de son existence, dans ce Requiem de Mozart, ce qu'on trouvait, c'était un orchestre plein, dense, une patte très épaisse, mais avec du coup une esthétique profondément tragique, quasiment métaphysique, surtout que Carl Böhm choisissait ici de prendre des tempi extraordinairement lents, qui nous mettent sur la voie de Bruckner, peut-être, de Wagner éventuellement, avec cette patte orchestrale-là, peut-être même de Mahler, pourquoi pas, mais enfin, on pourra pas reprocher à ces versions de ne pas avoir de souffle, il y en avait, du tragique, du dramatisme, partout, que ce soit dans les chœurs, dans l'orchestre ou dans le quatuor vocal. Toujours ce Requiem de Carl Böhm en 1971, Requiem de Mozart avec le Philharmonique de Vienne et un quatuor vocal, Edith Matisse, Julia Amari, Vjislav Hochman et Karl Riederbusch. Un disque qui est impressionnant, on l'entend, il est impressionnant en soi, mais aussi rétrospectivement avec une sorte de bond esthétique qui va bientôt se produire. 1971, on peut le rappeler, c'est la date à laquelle Arnoncourt et Léonard lancent leur intégrale des cantates de Jean-Sébastien Bach, donc le mouvement baroque en est à ses débuts, mais il commence vraiment à s'imposer. plutôt dans la musique du 17e siècle ou du premier 18e. Mais quelques années plus, les Marineurs, Arnoncourt, Gardiner en viendront à Mozart et, à un moment ou à un autre, bien sûr, au Requiem, finissant par imposer une esthétique et des manières beaucoup plus souples, beaucoup plus légères, plus rapides, plus tranchantes. Alors du coup, les Requiem de Böhm, Giulini, Karajan, eh ben, ont l'air d'être un peu d'un autre temps. C'est un autre temps qu'on peut écouter en... quand même, hein. D'autant qu'on a là quelque sorte comme les derniers feux, sublimes, ultimes, mais sublimes, de la conception monumentale de Mozart.
Thank you.
La News Dei, le Lux Aeterna qui referme le Requiem de Mozart, Requiem ici au parfum d'éternité. C'était Karl Böhm qui dirigeait l'orchestre philharmonique de Vienne et le chœur de l'opéra d'État de Vienne pour ce disque Deutsche Grammophon de l'année 1971. C'était pour aujourd'hui notre disque de légende à retrouver, podcaster et collectionner par francemusique.fr.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Après ces excès de sublime, on va revenir à quelque chose de plus aérien, de plus léger, de plus pétillant aussi, enfin, de plus français, quoi. Entracte de Jacques Ibert, joué par Jean-Pierre Rampal à la flûte, Lily Laskin à la harpe. Bah oui, parce qu'on a consacré évidemment la première partie d'émission à Yitzhak Perlman, né un 31 août, il y a 75 ans, tout juste. Monsieur Langut m'a écrit en fin de semaine dernière pour me rappeler que Lily Laskin aussi est née un 31 août. Bon, c'était bien longtemps auparavant, en 1893, quasiment un autre monde. Un monde, il faut le rappeler, où la harpe n'était pas tout à fait un instrument comme les autres, ou enfin, bref, on n'en faisait pas, disons, un instrument soliste ou particulier. Visible, et bien elle avec à la fois son charme et sa force, parce qu'elle avait de la force, Lily Laskin, je dis pas pour jouer de son instrument, mais pour arriver à l'imposer sur toutes les scènes du monde, et bien elle a réussi ça. On va la retrouver, la grande Lily, ici jouant Gabriel Pierney. Thank you.
Thank you.
L'impromptu caprice en la bémol majeur de Gabriel Pierné, originellement pour le piano, je crois bien, mais qui a été transporté à la harpe, qui a été joué ici par Lily Laskin et qui est devenu un classique de son instrument, la harpe donc. On va écouter pour ce qui suit la rêverie, enfin la berceuse, c'est plutôt une berceuse, Lullaby de George Gershwin, composé à la fin des années 20, au début des années 20 plutôt, pardon, alors qu'il était lui-même en train de réétudier, si j'ose dire, la musique George Gershwin. Il ne faut pas oublier qu'il a été en grande partie autodidacte, que le début de sa carrière s'est fait avec des musiques évidemment tournant autour des spectacles de Broadway, et que c'est par la suite, pas tardivement mais presque, qu'il s'est tourné vers l'enseignement de la grande musique classique, comme on dit. Et il l'a fait en allant voir à peu près tous les professeurs qu'il pouvait rencontrer. On se souvient qu'à cette époque-là, il a croisé Maurice Ravel, à qui il a demandé quelques conseils de composition. Ravel qui lui a rétorqué, avec l'argent que vous gagnez et le peu que je gagne moi, ce sera à moi de vous demander des conseils. Toujours est-il que le résultat de ces cours très sérieux de George Gershwin, et c'est par exemple cette berceuse-là, pièce de 1919, qu'il a reprise plusieurs fois par la suite et à laquelle il tenait beaucoup. La berceuse de George Gershwin, pas celle qu'il a écrite plus tardivement, hein, qu'on connaît certainement un petit peu mieux sous le titre, vous le connaissez, ce titre-là, Summertime, bien évidemment, c'était ici, Ricardo Chailly, avec l'orchestre de Cleveland.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
On va fermer cette émission avec une triste évocation, celle d'une disparition. Il était pourtant bien jeune, 58 ans seulement, Claudio Cavina, chanteur, chef de chœur, fondateur de la Venexiana. Claudio Monteverdi, un extrait du cinquième livre des Madrigaux, Cruda Amarilli, par l'ensemble La Venexiana, où l'on entendait, entre autres ici, comme contre-ténor, Claudio Cavina, né en 1962, qui avait donc été d'abord chanteur. Il était resté, d'ailleurs, avec le temps. Il avait étudié dans les années 80 avec la mezzo américaine Candace Smith, et puis s'était retrouvé à la Scola Cantorum de Bâle avec, entre autres, Kurt Widmer et René Jacobs. Il avait commencé en jouant les utilités, si j'ose dire, comme chanteur au tout début de sa carrière. Et puis il s'est trouvé au sein de l'ensemble, le concerto italiano de Rinaldo Alessandrini, il avait fait quelques merveilles. Et puis, à partir d'un certain moment, il avait pris son autonomie et s'était retrouvé à fonder en 1995 avec une soprano, Rossana Bertini, son propre ensemble, La Venexiana. Avec ce chœur, eh bien, il a fait le madrigal italien sous toutes ses formes, essentiellement Claudio Monteverdi, bien sûr, puisqu'ils ont gravé une intégrale des Madrigaux, ce qui est une entreprise absolument incroyable et qu'il a mené, Claudio Cavina, avec toute l'énergie qui était la sienne. Enfin, cette énergie, elle lui a fait faire aussi, en tout et pour tout, 70 disques, ce qui dans ce répertoire est quand même absolument sidérant. Monteverdi au cœur, on l'a dit, mais Gesualdo, bien sûr.
Caltra pena non sei,
musique de la douleur. C'était extrait du quatrième livre des Madrigaux de Carlo Gesualdo, ici chanté par les membres de la Venexiana sous la direction de Claudio Cavina, dont je vous rappelle qu'on a appris aujourd'hui même la disparition à l'âge de 58 ans. Alors pourquoi ce titre de la Venexiana? C'est assez intéressant. En fait, c'est une comédie anonyme de la Renaissance. Et c'était très bien dire lorsque Claudio Cavina a fondé cet ensemble il y a maintenant 25 ans. C'était bien dire qu'il voulait aller non seulement du côté du madrigal, mais de la théâtralité du madrigal. Et c'est ce qui a toujours été très beau dans les versions de la Venexiana et dans l'esthétique qu'on a entendue ici, l'esthétique madrigalesque qu'ils ont cultivée, qui est faite évidemment quelque chose d'assez lisse, d'assez pur, vous l'avez entendu, où le mot est absolument central. Et il paraît, alors ça quand vous parlez avec des musiciens italiens, ils vous le disent, que l'attention non seulement à la langue italienne, mais aux différents dialectes de l'italien en fonction des compositeurs est un élément très très important de l'esthétique et de l'approche de Claudio Cavina, une chose qu'on n'entend pas évidemment quand on a une oreille française comme vous et moi, mais qu'il a et qui donne certainement aussi la couleur à beaucoup de ses enregistrements. Alors je vous le disais tout à l'heure, une vraie folie, fanatisme presque pour l'œuvre de Claudio Monteverdi. Pas seulement, puisqu'ils ont enregistré aussi Gesualdo, Marenzio, Sigismondo d'India, pour ne citer que. Mais côté Monteverdi, ils sont allés du coup aussi du côté de la musique religieuse et même des opéras. Et là, ça pouvait être une surprise. Mais c'est vrai qu'il y a aussi dans les opéras de Monteverdi, et particulièrement dans l'Orfeo, quelque chose comme un souvenir du madrigal que Claudio Cavina mettait vraiment en avant. On va l'entendre dans ce qui suit. Thank you. Les bergers étaient réunis au final du premier acte de l'Orfeo de Claudio Monteverdi dans cette version signée Claudio Cavina avec les membres de son ensemble La Veneziana.
À réécouter sur francemusique.fr.